La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Au musée royal de Marimont, nous parlons. Annie Verbank, vous avez construit cette exposition. Quel est son itinéraire? Quel est son parcours?
Elle est l'héritière de l'exposition que j'avais faite il y a 20 ans, presque jour pour jour, à propos d'Hippocrate. Donc, il y a 20 ans, nous avions fait autant d'Hippocrate, présentant le père de la médecine, celui que tout le monde connaît, qui symbolise à lui seul toute la médecine antique, au détriment peut-être de Galien. Et donc, dès ce moment-là, j'avais abordé l'héritage hippocratique où l'on trouve évidemment Galien, puisque Galien est un des principaux commentateurs d'Hippocrate. Et on connaît aussi beaucoup d'Hippocrate grâce à Galien, de son maître à penser, même si 6 siècles les séparent. Et donc, en germe, je dirais, depuis longtemps, j'avais cette perspective d'un jour retravailler sur Galien, et puis effectivement, les choses sont restées un petit peu dans mes cartons, je vais dire, jusqu'à ce que récemment, de plus en plus, le nom de Galien revienne à la surface, et notamment dans ce qu'on appelle la collection des universités de France, c'est-à-dire les butées, hein, comme on appelle ça dans le monde philologique, les éditions de textes antiques, grecs et latins. On commence à éditer depuis une petite vingtaine d'années, mais pas avant. On commence à éditer Galien, alors que tout Hippocrate avait été édité depuis longtemps. Galien avait été un petit peu oublié. Et grâce notamment à Madame Véronique Boudoumio, qui est une des commissaires de l'exposition, de même que Madame Gourevitch, on recommence à réétudier en français Galien.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kalisquis.
Mon œuvre.
Allez, Osaka.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique,
le monde invisible.
Au musée royal de Marimont.
Il s'agit d'une exposition sur la médecine antique qui a cette particularité d'être centrée sur l'un des plus grands médecins de l'Antiquité qui s'appelle Galien de Pergame et qui, effectivement, est un médecin grec qui a vécu sous l'Empire romain. Donc ça nous donne déjà une espèce de dimension géographique, culturelle, historique par rapport à son très illustre prédécesseur, Hippocrate, qui a vécu 6 siècles avant Galien. Donc on a vraiment une grande distance et Galien est en quelque sorte l'aboutissement de toute la médecine antique. C'est celui qui va la synthétiser, c'est celui qui va la mettre en forme dans de très très nombreux écrits. Et c'est la première exposition jamais réalisée sur Galien de Pergame. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est de suivre ce médecin dont on connaît bien la vie, une vie qui se déroule en plein empire romain, c'est-à-dire au deuxième siècle de notre ère, sous les Antonins. Et puis la dynastie des Sévères au début du IIIe siècle de notre ère. Et donc c'est très intéressant de pouvoir avoir le regard de ce médecin qui est de culture grecque face à cet empire romain dans lequel il vit et qui domine toute la Méditerranée à cette époque-là, la fameuse Pax Romana.
Au musée royal de Marimont, jusqu'au 2 décembre, au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain.
Et j'ai, avec mon mari, parcouru, suivi à la trace Galien de Pergame à Rome, en passant par Alexandrie. On a suivi ces différents voyages. On les a refaits en quelque sorte pour retrouver des pièces susceptibles d'être exposées et qui parlaient encore de Galien.
Avec Olivier Kummer, Christine Lompré, Annie Verbank.
Quel est le fil conducteur le plus facile à comprendre quand on parle d'un auteur quel qu'il soit, d'un peintre ou d'un artiste ou d'un médecin en l'occurrence, mais c'est simplement peut-être suivre le fil de sa vie puisqu'on la connaît. Donc on démarre avec l'enfance et les études de Galien et puis on suit son parcours. Et à chaque étape de son parcours, on brasse, si vous voulez, des connaissances sur son environnement, sur les papyrus, donc les papyrus manuscrits qu'il découvre à Alexandrie, sur des casques de gladiateurs, et des photos de l'amphithéâtre de Pergame, sur des animaux disséqués dans le théâtre anatomique, sur un portrait de Marc Aurèle. Donc à chaque étape, on a son regard sur son environnement aussi. Pas seulement médical, mais aussi celui de la vie quotidienne et de la vie politique du monde romain. Et de la vie militaire également. Et de la vie religieuse également. La dernière étape étant constituée par Galien après Galien, c'est-à-dire la survie des écrits galéniques qui valait presque une exposition à part entière. On a touché à ces différents aspects sous forme effectivement d'un itinéraire de découverte.
Je jure, en présence des maîtres de leur faculté, des conseillers de l'ordre, des pharmaciens et de mes condisciples, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.
Et le concours de Claude Michaud?
On a également des ateliers parfums. Il y en a un qui est en cours pour l'instant, animé par Monsieur Kummer, qui sont extrêmement intéressants. Donc des ateliers de parfums et médecine ou de composition de parfums.
Olivier Kummer, parfumeur et animateur olfactif. Mais donc il s'agit de présenter d'une part des ateliers olfactifs sur le thème parfum et médecine. Il y a eu également des ateliers de composition de parfums à partir d'essences qui étaient utilisées dans l'Antiquité pour leurs propriétés curatives. Donc ce sont des animations olfactives qui sont proposées aussi bien aux visiteurs individuels qu'aux groupes scolaires.
Au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain. Par Thierry Jolico.
Pergame, c'est sur la côte de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, un peu au-dessus d'Izmir, qui est l'ancienne Smyrne, où Galien se rend d'ailleurs. Là, nous avons des pièces qui viennent de Smyrne ici. Donc ce sont des villes grecques de par leur origine lointaine et de par leur fondation, mais qui sont très prospères à l'époque romaine.
Le monde invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Christine Lompré, je suis guide conférencière ici au Musée Royal de Marimont, donc je travaille au service pédagogique.
Smyrne était déjà considéré comme un centre médical important et puis il cherche à rencontrer des médecins autres que ceux qui l'ont formé à Pergame, qui sont des grands anatomistes célèbres de l'époque ou des physiologistes. Et donc il s'informe, il suit différents maîtres, différentes écoles, c'est comme ça qu'on se forme. Et à Smyrne, il a peut-être rencontré un jeune médecin dont on a ici l'inscription funéraire, qui est mort à Smyrne, mais assez jeune, à l'âge de 19 ans. Il s'appelait Nicétès et qui se définit comme iatros, donc médecin, à l'âge de 19 ans. Voilà. Disons qu'il était en cours de formation. Peut-être a-t-il croisé Galien dans les rues de Smyrne lors de sa formation. Donc là, on est vraiment très très proche.
Annie Forban.
Le monde entier est parcouru d'épidémies et de maux divers. Hein. La malaria est fréquente, la tuberculose est fréquente. Bien sûr, toutes les grandes maladies qui sont celles du monde avant l'apparition de l'aspirine et des antibiotiques et des vaccins surtout sont effectivement redoutables.
Annie Verbank me parle de phytothérapie.
Puisque c'est quelque chose qui se fait toujours aujourd'hui et quelque chose qu'on pratiquait déjà à l'époque de Galien, puisque les principes des médicaments, c'est se soigner avec les plantes dans l'Antiquité. Et donc, dans le cadre de l'exposition, on a souhaité présenter ce qu'on a appelé le jardin de Galien, c'est-à-dire que nous avons trouvé des plantes qui poussent chez nous, sous nos contrées, qu'on utilise toujours dans la pharmacopée actuelle et qu'on utilisait déjà à l'époque de Galien pour se soigner.
Un des chapitres, nous y arriverons ultérieurement sans doute, un des chapitres de l'exposition nous parle de la fameuse peste antonine, hein, qui est en réalité une épidémie de variole qui va déferler sur l'Empire romain à partir de 165-166 de notre ère, pendant plusieurs dizaines d'années même, et dont Galien va être le principal témoin direct de cette épidémie, attestée par d'autres historiens, attestée par des inscriptions, attestée par... Là, on est en plein dans la peur de l'épidémie qui terrorise évidemment le monde antique, comme il a terrorisé toute l'histoire du monde, hein, où que ce soit, chez nous, les grandes pestes, hein, pensons à la peste noire, à la peste de Marseille, à des choses comme ça, c'est la terreur de l'être humain, ce sont les grandes épidémies contre lesquelles on ne sait rien faire. Et encore, quand on entend le mot Ebola, on n'est quand même pas trop fiers. Hein, voilà, donc les virus restent certainement les grands ennemis de l'humanité.
Mais en fait, quand on regarde l'histoire de la parfumerie et en fait l'histoire de la médecine, on se rend compte que la médecine, la pharmacie, la parfumerie et la cuisine sont très liées et que évidemment il y a un héritage très important. Par exemple, dans les boissons que l'on consomme encore aujourd'hui, je vais prendre le Coca-Cola sans faire de publicité, c'est un héritage de l'époque de Galien et d'Hippocrate et bien avant lui.
Au musée royal de Marimont, jusqu'au 2 décembre, au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain.
Pour prendre un autre exemple, dans la cuisine indienne, on a énormément d'épices qui sont évidemment utilisées en parfumerie et qui sont utilisées dans la cuisine indienne et dans la médecine ayurvédique. Donc là, on a vraiment un lien tout à fait évident entre ces trois disciplines encore aujourd'hui.
L'autre moyen d'observation est évidemment les urines aussi, hein, qui, et surtout au Moyen-Âge, on connaît l'uroscopie, regarder les urines, la couleur des urines. Et déjà, chez Hippocrate, toutes les sécrétions humaines sont pour le médecin des indices dont il doit se servir pour faire son diagnostic, puisqu'elle ne peut pas aller au-delà dans les analyses, n'ayant ni thermomètre, ni stéthoscope, ni laryngoscope, ni otoscope, rien.
D'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement.
Ce qui fait la fièvre, alors qu'ils n'ont pas de thermomètre. Donc, qu'est-ce qui fait la fièvre? C'est la bouche sèche, c'est le cœur qui bat beaucoup plus vite, c'est le sentiment un peu paradoxal d'avoir très froid alors que la température monte, du corps monte. Donc, il y a des sueurs froides, mais une augmentation de la chaleur, disent-ils. Hein. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose qui est en putréfaction à l'intérieur. C'est la putréfaction qui crée la chaleur. C'est vrai, d'ailleurs. Bon. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est en putréfaction à l'intérieur, qui crée cette chaleur. Mais par contre, on a froid, on frissonne. Donc, toute une série de symptômes qui sont des symptômes bien observés. Et donc, c'est la pièce la plus ancienne de l'exposition. Je l'ai prise parce que, justement, Galien s'est penché sur de tels papyrus. Par contre, pour tout le reste des objets de l'exposition, j'ai été très vigilante pour choisir des pièces qui étaient directement contemporaines de Galien, de façon à ne pas faire d'anachronisme, parce que je n'aime pas les expositions de médecine romaine, et il y en a souvent, où tout à coup arrive un vase grec du 6e siècle avant, ou du 5e siècle avant, pour expliquer la médecine romaine.
De ne jamais oublier ma responsabilité, mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine.
Par le laurier qui se trouve effectivement ici,
Christine Lompré.
Alors, il y a un rapport avec la pharmacie, mais il y a aussi un rapport inévitable dans l'Antiquité avec la mythologie, puisque le laurier, c'est la plante du dieu Apollon. C'est la nymphe Daphné qui un jour a été métamorphosée parce qu'elle voulait échapper aux assiduités d'Apollon. Et la seule chose que les dieux ont trouvé à faire, eh bien, c'est de la métamorphoser en plante. Et donc Apollon a décidé de la choisir comme sa propre plante et elle est associée à lui. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on remportait, on va dire, un concours de poésie, de musique, on recevait une couronne de laurier. Mais Galien utilise le laurier en brûlant ses feuilles pour se protéger de ce qu'on a appelé la peste antonine, c'est-à-dire l'épidémie de variole qu'il a rencontrée dans les années 166 approximativement.
Annie Verbank.
Il n'y a même pas de distinction entre médecin et pharmacien. Le médecin fabrique ses remèdes lui-même. Il se fait parfois aider peut-être par un assistant, mais enfin, il fabrique globalement ses remèdes. Et quand il pratique lui-même la chirurgie. Il est lui-même chirurgien. Alors évidemment, dès l'époque de Galien, il y a des spécialistes, notamment pour tout ce qui est maladie des yeux. Il y a des ophtalmologues, des oculistes, si vous voulez, qui s'occupent uniquement des yeux. Et Galien est un petit peu mécontent parce qu'il dit il faut savoir tout soigner. Ça ne va pas, des médecins qui ne soignent qu'un organe et qui connaissent pas tout le restant, ça ne va pas. Et en réalité, il faut qu'on soit omniscient, il faut qu'on puisse tout soigner. Mais il y avait évidemment des petites corporations de gens qui ne soignaient que les yeux avant dans leurs petits colis. Et voilà, ça, c'est des petits médecins, hein, des gens très peu formés. Il y a de tout, il y a toute la gamme. Dans les médecins antiques, Galien est évidemment au sommet, ça c'est évident, mais il y a toute une gamme de gens qui font ce qu'ils peuvent pour soigner leurs voisins, leurs prochains, voilà. Et donc, non, la chirurgie est un des savoirs principaux du médecin antique qu'il mène à un point assez élaboré, très vraisemblablement, oui.
C'est aussi une plante qu'on utilise toujours aujourd'hui dans la pharmacopée actuelle. Par exemple, si vous avez des petits problèmes de dents ou bien d'aphte dans la bouche, par exemple, eh bien, vous pouvez placer un peu d'huile essentielle dans votre bouche. Ou bien encore, si vous avez une entorse, eh bien, ça aide aussi à réduire les entorses. Donc, on l'utilise dans l'Antiquité, on l'utilise toujours aujourd'hui, effectivement. Et la particularité aussi, c'est que c'est une plante qui reste toujours verte malgré l'hiver.
Quand vous dites il y a toutes les gammes, même les rebouteux?
Ah, très bonne question. Effectivement, il y a toutes les gammes de gens qui se sont formés peu ou prou, mais qui ont quand même une petite formation chez un autre médecin lui-même reconnu. Ça, ce sont des médecins. Alors, Galien peut déplorer que certains se disent médecins au bout de 6 mois. Il dit, mais enfin, a-t-on idée d'être médecin au bout de 6 mois? Ça va pas. Il faut faire 10 ans d'études pour être médecin. Par contre, effectivement, ceux qui n'ont aucune formation et qui très pertinemment vendent de la poudre de perlimpinpin pour se faire de l'argent en narguant ou en trompant les gens, ceux-là effectivement n'ont pas de pardon pour Galien. Donc il est très hostile à la magie pour la magie et à ceux effectivement qui n'apportent aucune aide que voler les gens. Ça effectivement c'est très très défavorable. Ce type de personnage que l'on découvre décrit d'ailleurs par Lucien de Samosate, hein, qui dans un traité sur Alexandre le faux prophète démolit comme ça ce type de personnalité qui se font de l'argent sur la crédulité des gens. Donc là, on n'est plus dans le monde de la médecine et dès l'époque, ça paraît assez clair pour les médecins. Peut-être pas pour le public, mais pour les médecins, ça paraît assez clair.
Des plantes aromatiques, il y a des plantes qui ne sont par exemple pas très utilisées en parfumerie, mais qui sont dotées de propriétés olfactives intéressantes et curatives. Je pense par exemple à la gaultérie que les kinésithérapeutes utilisent beaucoup, qu'on utilise aujourd'hui énormément dans les eaux buccales. Mais par contre, justement, cette dimension trop médicinale dans cette essence la fait peu utiliser en parfumerie parce que justement, ça rappelle trop ce côté curatif.
Il n'arrête certainement rien, au contraire. Mais c'est un jalon essentiel. Et effectivement, son but va être de réunir en une somme de nature encyclopédique, d'une nature scientifique, certainement, tout ce qui s'est dit en matière de médecine et de pharmacopée antique dans l'ensemble du monde hellénistique et du monde romain. Donc c'est une espèce de fatras, je dirais, avant lui. Il y a des traditions hippocratiques, il y a des traditions érasistréennes, il y a des traditions méthodiques, dogmatiques, il y a des écoles différentes et chacun prône une façon de connaître la médecine, d'étudier la médecine, de pratiquer la médecine différente. Et donc, Galien va à la fois se mettre au courant, étudier tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait avant lui, et prendre position, et structurer cette énorme matière médicale en y apportant son expérience, ses recherches, son savoir. C'est à la fois un très grand esprit qui se veut, dès le départ, au-dessus de toutes les tendances, au-dessus de toutes les écoles, de façon à chercher la vérité dans ce qui est l'étude du corps humain, l'étude des maladies, l'étude des remèdes.
Nous, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on la connaît le plus. Lorsqu'on fait une sauce bolognaise, on a tendance à mettre effectivement des feuilles de laurier à l'intérieur. Voilà, c'est une plante aussi, comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. C'est-à-dire que si vous consommez un peu trop de feuilles et que vous mangez les feuilles de laurier, ça peut être toxique. Donc toujours à prendre avec modération.
Annie Forbank.
La vérité pour lui est celle de prouver ce que l'on avance. Donc une vérité anatomique, elle se démontre sur un corps disséqué et pas dans des théories fumeuses, mal élaborées, un médecin qui ne sait pas où se trouvent les nerfs, où se trouvent les os, où se trouvent les muscles, où se trouve le cerveau. Donc c'est sur une base qui est cautionnée par la réalité matérielle, entendons-nous bien. Et donc par exemple, quand il s'agit de s'inscrire dans le débat sur qu'est-ce qui dirige le corps, est-ce le cœur, est-ce le cerveau? Débat qui était en cours depuis Aristote, par exemple. Eh bien, quand il faut s'inscrire dans ce débat, il démontre qu'effectivement, c'est le cerveau qui est à l'origine de tous les nerfs, et il dissèque les nerfs, que c'est le cerveau qui est à l'origine du mouvement, réflexe ou non, des mouvements volontaires, des différentes sensations également, même s'il ne nie pas l'importance fondamentale du cœur et du foie dans le fonctionnement du corps. Mais c'est bien sûr, c'est le centre hégémonique et le cerveau. Et donc, voilà où est la vérité, selon lui.
L'emblème de la pharmacie, c'est lié à Hygie, une des filles d'Asclépios, qui a comme emblème à la fois une coupe et à la fois le serpent, parce que c'est vrai que le serpent, il peut guérir, mais il peut donner la mort aussi. L'autre lien avec le serpent, puisque c'est aussi l'emblème d'Asclépios, c'est que le serpent est un animal chthonien, l'animal qui rampe dans la terre. Il est en contact avec les racines des plantes et donc il connaît le secret des plantes, qui peuvent guérir entre autres.
Il me semblait que c'était Vésale qui disséquait.
Alors, bien sûr, l'histoire de la dissection est un grand point fort, je dirais, de notre exposition. D'ailleurs, vous y verrez des animaux disséqués. Ce que je ne pensais pas dans toute ma carrière plutôt d'antiquiste et plutôt de spécialiste des pierres antiques ou des marbres, de voir un jour me charger de trouver des animaux disséqués pour expliquer une exposition relative à l'Antiquité classique. Soit. Effectivement, la dissection est une question souvent posée et que j'ai voulu illustrer parce que Galien est un grand anatomiste et c'est sur la dissection qu'il se fonde. L'histoire de la dissection est importante dans l'Antiquité. On sait que sous l'Antiquité classique, on dissèque peu ou pas les corps humains. On dissèque relativement peu d'ailleurs parce que l'anatomie n'est pas extrêmement bien connue. On en est vraiment au tout début des recherches anatomiques. Il faut attendre Alexandrie, donc le règne des Ptolémées, Alexandrie fondée par Alexandre le Grand, cette Égypte grecque où la dynastie fonde la grande bibliothèque et le fameux musée qui va avec la bibliothèque, qui c'est un centre de recherche. Il faut attendre cette époque-là pour que pour la première fois des médecins s'intéressent à l'étude approfondie du corps humain et commencent à disséquer véritablement les corps humains. Nous sommes en Égypte, et ça ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que l'Égypte a effectivement une tradition, via la momification, d'ouverture du corps juste après la mort, même si c'est pour des raisons purement rituelles et de transport dans l'au-delà. Il y a une attitude par rapport au corps qui n'a peut-être pas l'espèce d'inhibition qu'a la culture gréco-romaine d'ouvrir le corps juste après la mort. En réalité, dans le monde gréco-romain, juste après la mort, il faut pratiquer les rites d'ensevelissement. En Égypte, des médecins grecs, je dirais, retirent sans doute d'un environnement égyptien cette expérience. Ils s'attachent à ouvrir un corps humain et à essayer d'en comprendre le fonctionnement, ce qui n'est jamais très facile. Ouvrir un corps humain ne donne pas la clé de l'anatomie. C'est extrêmement complexe, extrêmement confus. Et donc, ces premiers médecins feront certainement des observations très valables, mais également des erreurs. Il s'agit bien sûr d'Hérophile et d'Érasistrate qui vont principalement œuvrer au IIIe siècle de notre ère. Et ce sera le seul moment dans l'histoire antique où on va disséquer des corps humains. Dans la suite de l'histoire de la médecine grecque et romaine, les médecins devront disséquer davantage des animaux. Et Galien va essentiellement, semble-t-il, disséquer des animaux, même s'il est certain qu'à Alexandrie, où il a étudié, il a dû approcher les manuscrits, d'Hérophile et d'Érasistrate, bien sûr, mais également approcher des squelettes ou des corps momifiés, etc. Et donc, dans la mesure du possible, il dit essayer de voir le plus possible de corps ouverts, par exemple des corps éventrés par un animal, mal ou pas, des corps éventrés, de soldats éventrés au bord du chemin après un combat et essayer de voir ce qui se passe dedans. Donc il connaît très bien l'anatomie, mais ses séances anatomiques, ses séances de dissection, ses études se passent essentiellement sur l'étude des mammifères et donc avec cette prémonition que effectivement il y a une proximité très nette entre les mammifères, les animaux et l'homme, qui est un animal parmi d'autres, un animal intelligent et politique, mais un animal quand même. Donc cette idée d'analogie entre l'humain et l'animal. J'en arrive enfin à Vésale, parce que c'est parce que Galien va opérer des animaux, disséquer des animaux, toutes sortes d'animaux, y compris un éléphant d'ailleurs, qu'il fera indéniablement des erreurs d'observation. Et ce sont ces erreurs que Vésale s'ingéniera en quelque sorte à repérer, parce que Vésale, pour la première fois depuis, je dirais, un millénaire et demi, pourra retourner à l'étude du corps humain, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout facile pour lui. Il va se faire excommunier par-ci par-là, il doit fuir à Padoue pour continuer ses recherches, etc. Mais pour la première fois, on dépend des cadavres de pendus pour les disséquer. Et pour
enfin replonger, je dirais, dans un corps humain, ce que Galien n'avait pas pu faire. Et il est un petit peu dommage de reprocher à Galien des erreurs qu'il n'avait pas pu corriger lui-même. On dit souvent que c'est Vésale, par ses dissections anatomiques, qui va rompre avec le galénisme, c'est-à-dire l'enseignement médical du Moyen-Âge. Mais attention, j'insiste beaucoup sur le fait que Vésale ne rompt pas avec Galien. Il rompt avec le galénisme, c'est-à-dire un enseignement figé de Galien. Quant à Vésale, lui-même, il reconnaît sa dette envers Galien, qu'il édite et qu'il publie. Galien est quand même sa base de travail. Donc voilà, et Vésale a une démarche qui est très proche de celle de Galien dans sa démonstration anatomique publique. Donc voilà, on a une grande proximité, je trouve, entre Vésale et Galien, même si Vésale permet d'aller beaucoup plus loin. Verbanque, oui, ou Annie, du coup.
On dit que Galien, c'est le patron des pharmaciens. On a gardé Hippocrate comme père de la médecine, et on dit que Galien est le père de la pharmacie, même s'il a fait quand même beaucoup pour la médecine, mais on l'a gardé en tant que, effectivement, saint patron, on pourrait dire, des pharmaciens. Les pharmaciens actuels prêtent toujours ce qu'on appelle le serment de Galien, d'ailleurs. Même s'il n'a de nom que le serment de Galien, on ne mentionne plus Galien dedans, mais on fait toujours référence à Galien actuellement, tout à fait. Et le symbole des pharmaciens est un symbole qui fait référence à l'Antiquité, tout à fait.
La vie de Galien est bien connue, dans la mesure où, à travers son œuvre qui est avant tout médicale et pharmacologique, il se met en scène régulièrement dans des anecdotes ou dans des souvenirs. D'œuvre en œuvre, de traité en traité, on parvient à glaner les renseignements suffisants pour avoir un parcours biographique de la vie de Galien. Et c'est ce parcours que nous avons suivi dans l'exposition. Donc on sait qu'il naît à Pergame en 129 de notre ère. On sait qu'il fait des études de philosophie puis de médecine, qu'il va les poursuivre à Alexandrie, à Smyrne, à Corinthe par exemple. Et puis qu'il est médecin des gladiateurs. Donc voilà, on suit vraiment toute sa vie jusqu'à l'apogée, qui est la rencontre avec l'empereur Marc Aurèle, qui est le principal empereur de la seconde moitié du deuxième siècle de notre ère. Et effectivement, je dirais jusqu'à un épisode terrible, qui est celui de l'incendie de 192. Et puis voilà, jusqu'à la fin de sa vie, qui est située, je dirais, entre 210 et 216 de notre ère, donc au début du IIIe siècle. Il a une vie très longue. Et donc, par des flashs comme ça, je dirais, dans son œuvre est parsemée, on parvient à vraiment connaître tout son parcours et à apprécier aussi la façon dont il mène sa vie. Et donc, au travers de sa vie, la façon dont il regarde autour de lui et dont il regarde l'Empire romain fonctionner, et dont il s'insère d'ailleurs dans cette société romaine, lui qui est donc grec d'origine, de naissance, de ville, hein, puisque l'Empire romain est multiculturel, mais essentiellement bilingue. L'Empire romain parle à la fois le grec et le latin, le grec dans la partie est, le latin dans la partie ouest, un petit peu comme de nos jours, on parle volontiers anglais et français. Il suffisait, je dirais, d'ouvrir Galien pour mettre en scène sa vie, ce que nous avons tenté de faire, bien sûr. Et d'autre part, ses œuvres, alors là, ses œuvres, c'est une quantité considérable d'écrits. Il a écrit des dizaines de milliers de pages. À l'époque, évidemment, des papyrus roulés, hein, puisque tel était le support écrit de l'Antiquité, qui, à l'heure actuelle, pour ce qui en est conservé, constitue à peu près 20 000 pages imprimées. Ça veut dire l'importance de cette œuvre considérable. Et ce qui est conservé, ce sont essentiellement les traités de médecine, de médicaments, hein, de remèdes, si vous voulez, alors qu'on sait qu'il a écrit des traités de philosophie, même d'art, de commentaires sur les grands auteurs anciens de l'Athènes classique, etc. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Oui, certainement. Un encyclopédiste, sans garder du terme encyclopédiste l'idée de touche à tout, parce que lui va en profondeur. Pour tout ce qui est médical, il va vraiment en profondeur. Et
dans tous les domaines, il va en profondeur. C'est quelqu'un qui a un raisonnement toujours basé sur une logique implacable, ce qu'il pense être une logique implacable, avec des arguments, c'est toujours très argumenté. Et quand il étudie les choses, par exemple, que ce soit médecine ou même Hippocrate ou même des historiens ou des tragédiens ou Aristophane, quand il étudie des œuvres anciennes, ce qui est important pour lui, c'est le terme exact. Donc il a ce sens de fonder une terminologie qui est à la base de la définition des choses, de chaque chose, pour savoir exactement de quoi on parle. Et quand on décrit quelque chose, mais de quoi parle-t-on et quel est le mot exact qu'il faut utiliser pour telle partie du corps, mais aussi tel médicament ou encore telle fonction philosophique. Donc il a le sens très aigu de la terminologie qui prouve, je crois, le vrai savant, parce que toute science induit une catégorisation et des définitions exactes pour se fonder. Outre le savoir théorique, Galien est parmi ces médecins qui défendent l'importance vitale pour la pratique médicale de la connaissance matériel, technique, manuel. Et donc pour lui, il faut savoir manier le scalpel, il faut savoir manier tel instrument pour retirer les pierres, retirer les tumeurs, trépaner, etc. Il a même un choix d'instruments qu'il a fait faire à sa main, dont il a fabriqué les moules en cire pour donner au bronzier pour qu'il soit vraiment à sa mesure et correspondant techniquement à l'opération qu'il veut faire. Nous retrouvons là le mot grec « techné », qui a évidemment donné « technique » chez nous, mais « technique » est trop restreint. Le mot grec de la « techné » est beaucoup plus large. Elle désigne l'art, le métier et la technique. Donc c'est un mot qui combine les trois aspects. Et la médecine, c'est la « iatrique »,« techné », le savoir, je vais dire, « iatrique », médical. Donc, on a les trois aspects et il y a un aspect artistique, effectivement, à cerner le bon moment pour opérer, à repérer chez le malade intuitivement ce qui ne va pas, quelle est sa faiblesse, pas seulement en prenant son pouls ou en le palpant, mais dans le regard, peut-être, ou dans la façon dont il vient se confier au médecin. Donc, il y a ce côté très personnel aussi de la pratique médicale que ne nie pas Galien du tout. Donc oui, c'est un art, c'est une technique et un métier, c'est une techné.
Une plante qu'on considère un peu comme une mauvaise herbe dans nos jardins, qui est ce qu'on appelle la chélidoine.
Christine Lompré.
La chélidoine, son nom vient en fait d'un mot grec qui veut dire hirondelle. Puisque Pline, l'ancien, avant Galien et Galien aussi, avait remarqué que cette plante est en fleur lorsque les hirondelles reviennent au printemps et arrêtent de fleurir lorsque elles repartent. Un bel exemple, c'est qu'elles ne sont plus en fleur chez nous. Les hirondelles sont effectivement reparties. L'autre raison aussi, c'est que on sait que les hirondelles utilisaient, et Pline le mentionne dans ses histoires naturelles, ils avaient remarqué qu'elles utilisaient le suc de la plante pour soigner les yeux de leurs petits, ou dit-on aussi pour accélérer l'ouverture des yeux. Et donc Galien et d'autres ont supposé que si c'était bon pour les animaux, ça devait être bon pour les humains et soigner les yeux aussi. Nous aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour soigner les verrues par exemple. Si vous mettez le suc de la plante sur une verrue, on dit que ça finit par brûler la verrue et que c'est efficace aussi.
Le corps est constitué, selon la tradition hippocratique, des quatre humeurs fondamentales, donc sang, phlegme, bile jaune et bile noire, qui sont elles-mêmes unies par des propriétés qui sont le chaud, le sec, le froid, l'humide. Et c'est l'équilibre, je dirais presque l'homéostasie entre ces quatre humeurs et surtout ces quatre propriétés qui fait la santé. Et donc c'est la tradition hippocratique qu'il défend et qu'il presque justifie, y compris dans sa physiologie ou dans les remèdes qu'il préconise. Donc c'est cette vision-là qu'il a de la constitution du corps.
Alors le dernier parfum que j'ai créé, c'est un parfum qui s'appelle Orient Mystique. Et c'est un parfum qui est basé sur toutes sortes de résines aromatiques qui sont utilisées dans les trois religions monothéistes, dans des contextes évidemment sacrés et religieux. Et donc j'ai voulu faire une espèce de synthèse entre le judaïsme, le christianisme et l'islam à travers un parfum.
Vous disiez à Niverbank « gladiateur ».
Oui. La gladiature est purement romain à l'origine. Et donc, c'est surtout en Italie et dans le monde gallo-romain, également en Afrique du Nord, qu'on va trouver ces fameux grands amphithéâtres tels le Colisée où se battent les gladiateurs. Étonnamment, dans le monde de la Méditerranée orientale, donc Grèce, Asie mineure, Syrie, etc., on trouve nettement moins d'amphithéâtres. D'abord parce que la romanisation, en quelque sorte, y est moins forte qu'en Gaule ou qu'en Afrique du Nord, même si elle est très présente. Et parce que le monde des spectacles grecs est basé sur d'autres formes, qui sont le théâtre et tous les sports de l'athlétisme, et les courses de chars, etc., un peu comme on voit Olympie, en fait. Et les amphithéâtres viennent généralement un petit peu s'implanter de façon presque un peu artificielle dans ces grandes cités d'Asie mineure principalement, comme Éphèse et surtout Pergame, comme facteur d'adhésion un peu à la romanité, et parce que sans doute, comme vous le dites très bien, les gladiateurs finalement finissent par avoir du succès, y compris dans le monde grec, de tradition grecque. On a là les témoignages de Galien, qui est nommé pendant 4 à 5 années de sa vie comme médecin des gladiateurs par le grand prêtre du culte impérial, qui effectivement le repère comme excellent chirurgien, et qui dit mais ce cher ami va nous garder nos gladiateurs en vie, et effectivement, il se vante de garder en vie la troupe de gladiateurs, parce que il ne faut surtout pas croire que c'est des massacres en permanence, les combats de gladiateurs. Au contraire, les gladiateurs, c'est cher, comme vous dites très bien, ce sont de grandes vedettes, et il convient de les maintenir en vie et de les garder. Et donc, les combats de gladiateurs sont souvent des duels très techniques, que le public apprécie à leur juste valeur et qui, je dirais, mettent en scène des compétences plutôt de roublardise ou de maniement d'armes ou de subtilité athlétique, bien plus que des massacres sanglants comme on les voit dans les péplums représentés. Galien soigne cette troupe de gladiateurs de l'amphithéâtre de Pergame, dont on voit encore les ruines à l'heure actuelle, donc c'est très proche.
Exactement, absolument, et qui sont parfois religions de guerre ou sources de guerre, mais qui ont évidemment des origines communes et qui ont surtout en commun d'avoir, dès leurs origines, énormément utilisé les parfums dans leurs rituels religieux. D'ailleurs, les origines de la parfumerie ne sont pas médicales ou médicinales, mais sont d'abord et avant tout religieuses.
Olivier Cumet.
Il y a l'encens, il y a la myrrhe, il y a le bois de oud, justement dans l'islam, et donc ce sont trois des principaux composants de ce parfum Orient mystique. Orient, pourquoi ? Parce que c'est au Moyen-Orient que les trois religions monothéistes sont nées, et c'est aussi le berceau de la parfumerie.
Au Musée Royal de Marimont, jusqu'au 2 décembre, au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain.
De l'absinthe, dont le nom scientifique est Artemisia. Alors là aussi, on se retrouve en lien avec la mythologie, puisque tout ce qui est absinthe, tout ce qui est armoise, sont en lien avec la déesse Artemis. Artemis qui est connue comme déesse de la chasse, mais qui est aussi la déesse protectrice des jeunes filles. Dans l'Antiquité, on n'a pas les vaccins actuels pour protéger les enfants et éviter qu'ils ne tombent malades. Donc on choisit de les placer sous la protection des dieux. Et les petites filles seront placées sous la protection d'Artémis. Et donc tout ce qui est plantes de la famille Artemisia sont des plantes qui vont soigner ce qu'on appelle à l'époque les maladies des femmes. C'est-à-dire qu'elles vont faciliter l'arrivée des règles, elles vont soulager les règles douloureuses aussi. L'Artemisia arborescens, qui est l'armoise, et on a également une autre armoise qui, elle, vient plutôt des pays, on va dire, méditerranéens. C'est une des rares plantes qui a survécu à la chaleur de l'été cette année. Et comme on le remarquait, celle-ci, effectivement, est remplie de pucerons. Donc j'imagine que dans le jardin, elle peut attirer les pucerons et les éloigner d'autres plantes.
Marc Aurèle, stoïcien, cet empereur stoïcien, avec ses pensées pour lui-même, et c'est automne, en grec, bien sûr, en grec. La philosophie et la médecine se pensent en grec dans le monde romain. Même si nous aurons des écrivains, il y en a abondamment, que ce soit Cicéron, Sénèque, celles ceux qui écrivent, qui tentent d'écrire aussi la philosophie, le savoir grec en latin. Bien sûr, je ne minimise pas ici les intellectuels romains, loin de là. Mais en réalité, on voit très bien que quand il veut se parler à lui-même, Marc Aurèle parle en grec.
il parle en termes de stoïcisme. C'est un très beau personnage, très intéressant, très fin, que Galien décrit comme étant bienveillant et cultivé et intelligent, parce que Galien le rencontre. Et Marc Aurèle se fait soigner par Galien à un certain moment. Et on a de cette consultation, je vais dire, c'est assez impressionnant. Galien est apprécié par Marc Aurèle au point de lui confier la préparation de son antidote appelé la thériaque. Il y a une relation de confiance qui s'établit entre eux et qui est assez intéressante. Et Marc Aurèle n'aura pas, je dirais, la vie qu'il mérite, en ce sens que on le voit un petit peu comme Adrien, son prédécesseur du début du IIe siècle, lui commence son règne en 161 jusqu'à 180, et on le voit soucieux plutôt de culture, de savoir, de paix certainement, il n'aime pas les jeux du cirque, il n'aime pas, ça, c'est, il trouve ça inutile. Par contre, il doit assumer ce qui est l'enjeu de son règne, à savoir le maintien des frontières de l'Empire, qui sont très menacés, que ce soit à l'est ou au nord, donc la frontière mésopotamienne d'une part, ou la frontière du Danube et du Rhin d'autre part, où il y a une forte pression des peuples qui vivent à la périphérie de l'Empire romain et qui menacent très, très fort l'Empire romain. Donc il passera des années de règne à combattre les Germains, ce qui est d'ailleurs raconté sur la colonne Antonine. Et donc là, ce sont des guerres très, très, très rudes, avec des massacres, etc. Et dans ses pensées, pour lui-même, on voit combien il pose la question de la nécessité d'un pouvoir aussi sanglant. Et donc, c'est des questions très actuelles, en réalité. C'est des questions extraordinairement actuelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette rencontre entre deux personnalités que je trouve fondamentales, qui sont Marc Aurèle et Galien, et qu'il faut réhabiliter, je pense, et peut-être lire avec attention.
Consoude, c'est un mot proche du français, souder, consolider, et le mot grec qui la désigne, c'est symphytum, c'est-à-dire pousser ensemble. On l'utilisait en cataplasme dans l'Antiquité lorsqu'on avait une cassure, une foulure. Et certains qui connaissent le médicament Flexagel, eh bien, si on regarde en dessous du médicament, eh bien, on a extrait liquide de consoude. Donc, c'est toujours quelque chose qui est utilisé pour les problèmes de rhumatisme, d'entorse et autres. Donc, elle a toujours cette vertu qu'on lui connaissait dans l'Antiquité et elle est toujours appliquée effectivement aujourd'hui.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.
Je peux aussi vous parler peut-être de la pulmonaire, une autre plante aussi. Pulmonaire, ça fait référence effectivement aux poumons, puisqu'on dit que son feuillage ressemblerait aux alvéoles pulmonaires, de loin ou de près en fonction. Mais là, on peut faire un lien avec une théorie qui trouve ses origines dans l'Antiquité, la théorie des signatures. C'est-à-dire, si une plante ressemble à un organe, elle pourrait soigner cet organe. Donc, si cette plante ressemble aux alvéoles pulmonaires, elle pourrait soigner, effectivement, tout ce qui est maladie respiratoire.
Christine Lompré.
Un autre bel exemple, c'est de rapprocher les yeux et les carottes. Quand on coupe une carotte, on remarque que ça ressemble à l'iris d'un œil. Et effectivement, la carotte est connue pour, non pas soigner les maladies des yeux, mais aider à avoir une bonne vue, puisqu'il y a de la vitamine A à l'intérieur.
On le voit bien dans l'épisode de l'incendie de 192, où il perd des biens très importants, y compris des livres, et où il écrit un très beau texte connu depuis peu, qui s'appelle le « Ne pas se chagriner ». Indolentia en latin et peri alupias en grec. Et donc il écrit en grec bien sûr. Et dans ce texte traduit en français par « Ne pas se chagriner », il écrit à un ami pourquoi, malgré la perte de ses biens précieux, matériels et écrits, il doit continuer à vivre et à croire dans son destin. Et donc il se remémore les leçons de vie que lui avait donné son papa, auxquelles il était très attaché. Et ses leçons de vie, c'est se contenter de très peu, de l'essentiel, de garder son indépendance d'esprit, de garder son courage, de continuer à travailler. Et donc, il se remet à l'ouvrage, il a plus de 60 ans à ce moment-là, il se remet à l'ouvrage, il se remet à écrire les œuvres perdues. Et donc là, il y a une flamme de stoïcisme, effectivement, qui est associée à cette soumission au destin, bien sûr, qui est la sienne. Mais il n'est pas, à proprement parler, un pur stoïcien. Il est très platonicien à ses heures, très aristotélicien à ses heures. Épicurien peut-être un petit peu moins, puisqu'il ne partage pas la vision de l'atomisme. Voilà, c'est quelqu'un qui se forge certainement sa propre philosophie. Y a-t-il un galénisme philosophique ? Oui, peut-être, oui.
Ou l'autre exemple très frappant aussi, c'est de rapprocher un cerneau de noix du cerveau. On dit que ça aide à la mémoire, mais toujours avec modération, parce que si vous mangez trop de noix, c'est trop gras. Donc c'est pas bon non plus dans un autre sens.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Sur mon honneur et ma conscience, je m'y engage.
Alors je peux encore vous parler de la mauve aussi, qui est une des rares fleurs encore en fleurs effectivement ici, de la famille de géranium.
Souvent les épidémies sont ramenées par les armées, hein, pensons aux croisades, ou à la suite de guerres, comme par exemple la grippe espagnole qui a sévi après la guerre 14-18, et qui est d'autant plus ravageuse que les populations sont affaiblies par les guerres, ou par les famines, ou par voilà. Et donc c'est le même phénomène. Donc ici une épidémie qui dont le bassin est très certainement l'Orient ici. Jusqu'où ça va, je ne sais pas, mais c'est certain que la rencontre a lieu lors de la prise de Ctésiphon par les armées de Lucius Verus. Et on voit très bien, alors, d'après des documents archéologiques et historiques, que l'épidémie suit le trajet des légions qui les ramènent. Et donc, ici, en Pannonie, puis la route du Danube et du Rhin, et puis alors toutes les grandes métropoles, Rome, Alexandrie, sont évidemment ravagées par cette épidémie. Donc, les routes commerciales, évidemment, après prennent le relais. Mais au départ, c'est très militaire. Et donc, c'est le premier point de rencontre de Galien avec l'épidémie, c'est quand il va soigner les soldats à Aquilée, les soldats qui reviennent donc de l'Est. Et c'est là qu'il découvre avec étonnement cette épidémie, qui dit « mais je ne sais rien faire ». Il dit « c'est terrible, il est vraiment, c'est l'hiver, en plus il fait très froid, ils ont des pneumonies, ils ont des crises de tuberculose, etc. » Mais alors surtout, il y a cette terrible épidémie de variole qui ne sera enrayée que grâce à la découverte du vaccin de Jenner à la fin du XVIIIe siècle, dont on a un autographe pour clôturer l'exposition, un petit peu un clin d'œil à Galien. Donc voilà, le travail sur les remèdes est présenté ici, le travail sur les maladies, les différentes maladies, la mortalité infantile est évoquée, la fameuse thériaque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est ce remède impérial qui fera le succès de Galien notamment, et qui se perpétuera à la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, on continuera à fabriquer de la thériaque. Et donc, en réalité, c'est un antidote qui ne sert certainement pas à protéger du venin des serpents, même s'il comporte, et le mot thériaque, terre, eta et taro, renvoie à l'animal venimeux, c'est le nom grec pour l'animal venimeux, mais ici, la chair de vipère ne sert pas à protéger du venin de vipère, on est bien d'accord. Par contre, ce qui soulage, peut-être parmi ces 60 ingrédients, dont certains très rares, très chers, très luxueux, qui comportaient la thériaque, comme le safran, la cannelle, etc., celui qui agit, à mon avis, est très certainement le pavot, le suc de pavot, l'opium, qui effectivement apaise certainement quelques douleurs et quelques inquiétudes. Et donc voilà pourquoi ce remède aura un tel succès. Marc Aurèle, aussi bien que Septime Sévère, commanderont leur thériaque à Galien. Donc ça c'est assez une jonction entre les médicaments et l'histoire, si vous voulez.
Je peux encore vous montrer aussi une autre plante qui est la rue, Ruta graveolens, de son nom scientifique, avec des petites fleurs jaunes et ces petites graines qu'on peut utiliser aussi. Graveolens, ça veut dire qu'il sent fort. Apparemment la plante sent mauvais ici. On se contente juste de l'effleurer. Elle est utilisée comme abortif principalement. On dit que les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants consommaient de la rue. Et j'ai eu la confirmation la semaine dernière lors d'une visite où un visiteur m'a effectivement dit que dans les années 50, il connaissait une jeune femme qui utilisait la rue pour éviter d'avoir des enfants. Et Galien utilise de l'huile de rue quand il a souffert de coliques. On a un texte assez intéressant où il évoque des problèmes intestinaux, pense-t-il au départ, voire même une pierre au rein. Et puis, lorsqu'il se fait une injection rectale d'huile de rue, puisque c'est ce qu'il mentionne dans son texte, il dit tout ce qui en ressort ressemblait à de l'humeur vitrée, Ce qui lui fait dire que effectivement, ce n'est pas une pierre aux reins, mais ce sont plutôt des coliques.
Au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain, par Thierry Jolico. Le monde invisible est produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
J'aime bien tout ce qui est jardinage. Je trouve que c'est quelque chose qui est très relaxant. Ça permet de penser à autre chose. Et puis travailler à ce projet, c'était vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'aller farfouiller un peu dans tous les textes de Galien, de Pline aussi, pour chercher comment on utilisait ces plantes dans l'Antiquité, voir comment on peut toujours les utiliser aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on peut avoir toutes ces plantes dans notre jardin et qu'on peut encore les utiliser pour les soigner. C'était d'autant plus aussi un projet intéressant qu'on a pu collaborer dans ce cadre-ci avec l'école d'horticulture qui se trouve dans le parc et que c'est vraiment un échange qu'on a pu faire avec eux. C'est-à-dire que Annie Verbank leur avait soumis une liste d'une soixantaine de plantes et puis eux sont allés rechercher la plante d'origine. Ils ont essayé de les faire pousser dans leur serre en hiver et il en résulte ici une vingtaine de plantes qui ont poussé pendant l'hiver et qui ont résisté aux fortes chaleurs de l'été et qui, on espère, vont résister aux premières gelées, puisqu'elles doivent tenir jusqu'au 2 décembre, date de fin de l'exposition. Mais je trouve qu'elles ont quand même pas mal résisté. Certaines même ont repoussé. Par exemple, les lupins, normalement, ont disparu des jardins. Eh bien, on a un petit lupin qui ressort ici. Donc, on ne désespère pas de les voir conservés jusqu'au 2 décembre.
Au Musée Royal de Marimont, jusqu'au 2 décembre, au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain.
Je n'ai pas affiché le serment d'Hippocrate, je devrais peut-être remettre le texte, si pas antique, du moins moderne, mais également insister sur le fait, et nous le voyons alors à la fin de l'exposition, qu'un texte appelé le serment de Galien est actuellement prêté par les pharmaciens.
Avec Olivier Kummer, Christine Lompré, Annie Verbank et le concours de Claude Michaud.
Nous avons connu l'été indien. Effectivement, à Marimont, il a fait très très chaud, très très tard, ce qui a nécessité aussi un arrosage quand même assez intensif de toutes ces plantes ici. Le parc est d'ailleurs en train de se parer de ces belles couleurs d'automne. Là, je pense que maintenant, l'hiver arrive tout doucement et donc on va se préparer à hiberner peut-être, effectivement.